Les Jeux olympiques sont en cours. Plusieurs personnes avaient émis des réserves au début des Jeux en disant « Ah, oh, moi, le hockey masculin, je pense pas regarder ça ben. J'aurais regardé ça si les joueurs de la Ligue nationale avaient été là. Mais là, comme c'est des joueurs qu'on connaît à peu près pas, je suis pas certain que je vais m'intéresser à ça. » Ce matin, à notre heure, c'était la présentation des quarts de finale. Il y a même eu le match États-Unis-République tchèque qui était hier soir à notre heure. Les Tchèques ont gagné en tir de barrage. Ce matin, le Canada a gagné 1-0 contre les Finlandais. Le Canada sera donc des demi-finales. Mais la surprise des surprises aujourd'hui est venue de l'Allemagne, qui a vaincu la Suède. Évidemment, vous allez me dire, « Ouais, mais là, Dan, si les meilleurs joueurs suédois avaient été là, ben ils n'auraient pas eu de match. » Peut-être, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Allemands ont gagné contre la Suède avec les joueurs qui étaient présents sur place. Et j'ai pensé m'entretenir avec l'entraîneur adjoint chez les Remparts, Marc Fortier, qui a joué 7 ou 8 saisons en Allemagne, qui connaît très bien la réalité du hockey allemand. Salut, Marc!
Salut, Dan!
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Hey, as-tu échangé des textos puis des messages Facebook aujourd'hui avec tes amis en Allemagne depuis leur victoire?
J'ai pas eu de la chance jusqu'ici. Je suis ami Facebook avec une couple de mes anciens coéquipiers en Allemagne, mais j'ai pas eu de la chance de les féliciter pour leur victoire de ce matin là, contre les Suédois.
Dis-moi, le hockey en Allemagne, on a beaucoup parlé dans les dernières années du hockey suisse qui va de mieux en mieux. Les jeunes jouent plus, puis les équipes arrivent au Mondial Junior mieux préparées, puis même l'équipe senior a fait quelques bons matchs sans évidemment se rendre jusqu'à la ronde des médailles aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde. Mais le hockey en Allemagne, est-ce que ça va mieux qu'à l'époque où toi tu jouais là?
Ben, ça va mieux pour les Allemands. Dan, c'est sûr et certain que la structure a changé, là, autant si tu parles de la Suisse, de l'Allemagne, ils s'inspirent un peu plus de des structures comme celle de la Finlande ou de la Suède. Mais où est-ce qu'il y a un gros changement, Dan? C'est que moi, là, je te donne un exemple. Moi, j'ai joué en Allemagne de 1997 à 2003.
OK. Okay? Ouais.
À l'époque, là, quand j'étais là, on avait le droit à 16 étrangers par équipe.
16
étrangers. Fait que je sais pas si tu sais, là, mais les Allemands, là, c'était des...
une minorité.
Ouais. Ben là, de 17 à 22, mettons, puis t'en avais 20 qui jouaient, mais veux pas, les Allemands se retrouvaient sur le 3e, 4e trio à l'attaque, se retrouvaient 5e, 6e défenseur dans l'équipe. Alors, lorsque tu arrivais dans les compétitions internationales comme ça, où ce que tu représentais ton pays, et puis que tu avais des gars qui avaient pratiquement pas d'expérience, pas beaucoup de confiance, parce que dans la Ligue en Allemagne, ils jouaient pratiquement pas, mais ça faisait en sorte que ils se faisaient ramasser, comme on dit, dans ce temps-là. Mais depuis, ils ont modifié le règlement. Et de mémoire, là, je crois qu'ils sont rendus à 10 étrangers et ils parlent encore de baisser ça. Alors, okay. C'est sûr et certain que ça a permis justement aux Allemands là, de jouer dans des rôles plus importants dans leur ligue et puis d'être plus représentatif de ce qui arrive dans des compétitions comme ça.
Ben oui, c'est ça. Dans le fond, on baisse ce nombre-là d'étrangers par équipe parce que les joueurs allemands sont meilleurs. Si c'est une bonne nouvelle pour le hockey en Allemagne, comme tu le précises, parce que si les joueurs allemands n'étaient pas de calibre, ben ce serait encore 16, hein?
Ben non, pas nécessairement. Je pense qu'ils ont pris des décisions. Ils ont pris des décisions de structure. Okay. De pays, ils n'ont pas dit nos joueurs allemands sont meilleurs parce que...
On veut les intégrer,
oui,
OK.
Le hockey allemand a beaucoup évolué, okay. Mais le bassin est extraordinaire. Là, tu parles d'un bassin de au moins 80 millions de personnes. Là, l'Allemagne, c'est sûrement plus que ça. Alors, c'est sûr et certain que t'as déjà un bassin qui est intéressant à jouer. C'est juste qu'à un moment donné, ils sont aperçus que ces joueurs-là, justement, t'avais de bons joueurs allemands qui ne réussissaient pas à se développer, qui étaient bons, si tu veux, dans le hockey mineur, mais qui arrivaient dans la grosse ligue allemande, puis ils plafonnaient parce que, justement, ils jouaient pas dans des rôles aussi importants. Alors, avant de dire nos joueurs allemands sont meilleurs, on va diminuer le nombre d'étrangers, ils ont plutôt fait le contraire.
Okay.
Ils ont dit, on va diminuer le nombre d'étrangers pour permettre à nos Allemands de mieux se développer dans les ligues. Alors, ça l'a peut-être un petit peu... Bon, je pourrais dire que ça peut-être diminuer le niveau du hockey allemand, mais ça fait quoi? C'est pas grave. Là, c'est pas comme ça permet justement à plus d'Allemands de jouer.
Intéressant.
Et ça leur permet justement d'être plus représentatifs là, dans les compétitions pour représenter leur pays.
OK. C'est quoi l'impact d'une victoire comme aujourd'hui sur l'Allemagne, Marc?
Ah, c'est sûr que c'est immense. T'sais, on se cachera pas qu'en Europe, le soccer demeurera le sport numéro un. Mais tu serais surpris, Dan, de voir comment que le hockey est devenu un sport suivi par les Allemands. Premièrement, on est rendu, moi j'ai joué avec des amphithéâtres, des arénas de 2-3 000 personnes. J'avais même certaines arénas qui n'avaient pas de mur. Là. On parle pas de 1950, là. On parle de 2000 où ce que certains arénas n'avaient pas de mur. Alors aujourd'hui, tu es rendu...
Qu'est-ce que tu veux dire, pas de mur? Marc, qu'est-ce que tu veux dire, pas de mur?
Ben, je te donne un exemple. À Augsburg ou à Mannheim, tu avais le toit. Tu avais, mettons, deux parties de mur, une façade, là, une de côté puis une en arrière, mais tu avais les deux autres que c'était à air ouverte. Là, c'était... les estrades étaient creusées, si tu veux. Le niveau de la glace était sous le sol, mais t'arrivais, t'avais les estrades, puis en haut des estrades, c'était à air ouverte, là. Comme ça dans 3-4 places. Oui. Okay. Mais je te donne Mannheim aujourd'hui, est rendu avec un aréna extraordinaire de peut-être 10-12 000 personnes. Cologne, j'ai vécu l'endroit où c'était horrible. Ils sont rendus avec un amphithéâtre de 16 000 places. Alors, à Berlin, c'est extraordinaire. C'est M. Anschut, là, avec le groupe AEG, là, qui sont propriétaires des Kings de Los Angeles, qui ont bâti l'aréna O2 World à Berlin, qui est un aréna de 14 200 places. Alors, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Alors, ça permet justement de donner l'engouement aux jeunes Allemands de faire du hockey en plus de faire leur sport national.
OK. Marc, évidemment, je l'ai dit dans mon intro, on s'entend que si les joueurs de la Ligue nationale sont présents là-bas, l'Allemagne ne joue pas en demi-finale. Sauf que les règlements sont faits de cette façon-ci, cette fois-ci. Puis les Suédois, même si les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas là, je veux dire, c'est quand même impressionnant pour le groupe d'Allemands de gagner aujourd'hui 4-3 en prolongation contre les Suédois.
Absolument, mais c'est sûr et certain. Tu regardes le Canada, honnêtement, Dan, c'est même pas l'équipe B, là, on s'entend que...
Non, c'est l'équipe E.
T'auras assez de joueurs dans la Ligue nationale pour faire deux équipes Canada, là.
Peut-être trois.
Je trouve que là, peut-être dans les équipes qui sont le moins défavorisées, là, oui. En parenthèse, oui. C'est peut-être les Russes, parce que les Russes ont quand même la chance d'avoir le deuxième... À mon avis, la deuxième ligue la plus forte au monde, qui est la KHL, qui permet... aux Russes de garder certains très bons joueurs qui pourraient jouer dans la Ligue nationale, mais qui prennent la décision de rester en Russie parce que la Ligue est forte et que ses conditions sont bonnes. Alors, c'est peut-être là dans les pénalisés, les moins pénalisés, mais c'est sûr et certain qu'en principe, même si les Suédois n'ont pas leurs meilleurs joueurs, leurs joueurs de deuxième ordre devraient être aussi bons, sinon meilleurs que les Allemands.
Absolument. OK, c'est le fun de t'entendre sur le hockey en Allemagne. T'as joué 7 saisons là-bas, Marc?
Ouais, 11 années en Europe, dont 7 en Allemagne et 4 en Suisse. Là, mais okay. C'est 7 années en Allemagne, ouais.
C'est un bon souvenir pour toi dans l'ensemble de ta carrière quand t'es rendu au début de la cinquantaine. Quand tu regardes ta vie professionnelle de joueur de hockey, t'es fier de ce que t'as fait, mais c'est un beau cheminement pour toi?
Dan, moi je dis toujours, j'ai réalisé mon rêve en jouant dans la Ligue nationale, mais j'ai trippé à jouer au hockey en Europe.
OK.
J'ai vraiment aimé. Premièrement, c'était complètement différent. C'était des glaces qui étaient olympiques. C'était moins de matchs. Ça m'a permis justement de voyager en plus de jouer au hockey. J'ai visité une vingtaine de pays en Europe. J'ai un nombre d'amis incroyables avec qui j'ai encore gardé le contact, autant en Allemagne qu'en Suisse. J'ai eu la chance, parce que j'étais là-bas, de jouer trois fois à la Coupe Spengler, qui est un tournoi incroyable à vivre. J'ai représenté le Canada en Suède dans un tournoi là-bas. Ça m'a permis de vivre autre chose que le rythme de la Ligue nationale que j'ai adoré, là, mais qui est 80 matchs, qui est du voyagement, qui est des décalages d'heures, que t'es parti c'est une dynamique qui est complètement différente, mais qui est tout aussi enrichissante là, pour un hockeyeur.
OK. Marc, entraîneur adjoint chez les Remparts, t'aimes toujours ça?
J'adore ça.
C'est quoi la différence entre, je dirais, maintenant, puis... pas l'époque où toi t'as joué, mais mettons, ce soir, là, vous affrontez Val-d'Or, vous avez trois matchs cette semaine au Centre Vidéotron. C'est quoi la différence entre maintenant, ce que Philippe te demande, puis la première journée que t'es arrivé quand il t'avait embauché?
Ben, c'est sûr et certain qu'on progresse en tant qu'entraîneur. Et puis, quand on progresse, ben c'est sûr et certain que l'entraîneur-chef va t'en laisser un petit peu plus, un peu plus lousse, comme on dit, là, sur certaines fonctions. Mais ça change pas vraiment d'un okay. côté. C'est sûr qu'on a un nouvel assistant-entraîneur depuis cette année. Ouais. Hein, Dan Renaud ouais. A eu la chance de devenir entraîneur-chef à Shawinigan. On se retrouve avec Ben Desrosiers qui est tout aussi compétent que Dan, qui est extraordinaire à travailler avec. Alors, l'important dans le coaching staff, c'est d'avoir une synergie entre nous. Tu sais, c'est de pas se piler ses pieds dans qu'est-ce qu'on a à faire, mais c'est de remplir vraiment tout ce qu'on a à remplir selon les besoins des joueurs et besoins de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, Dan, là, gérer nos jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme dans mon temps.
Non,
là,
ça,
c'est complètement différent. Alors, il y a un travail psychologique, pédagogique, de grand frère, de père. Il y a tout ça à faire où ce que ça demande vraiment que tous les entraîneurs en place soient fonctionnels, puis qu'on sépare les tâches, qu'on arrive à amener nos équipes prêtes pour chaque match. Alors, c'est un gros défi, mais c'est un beau défi. Puis c'est vraiment le fun de travailler un avec notre personnel entraîneur, mais surtout de travailler avec ces jeunes joueurs d'élite.
OK. Marc, tu as à peu près tout fait dans le hockey depuis que tu as pris ta retraite. Tu as été recruteur, tu as travaillé pour la Ligue d'hockey de Jean-Major du Québec, tu as fait du semi-pro à Saint-Georges, tu as été DG des Sags, tu es entraîneur adjoint maintenant avec les Remparts. J'imagine que tu aimerais ça gagner ta vie dans le hockey encore pendant 15 ans, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que, comme Daniel Renault le fait à Shawinigan, est-ce qu'entraîneur-chef dans cette ligue-là, tu aimerais ça ou tu te vois plus camper dans un rôle d'adjoint?
Je vais être honnête avec toi, Dan. J'ai pas vraiment l'ambition de devenir entraîneur-chef okay. dans la ligue.
Okay.
Je me plais là. Je me sens seulement privilégié, chanceux de pouvoir faire du hockey encore à mon âge. J'ai fait ça toute ma vie et puis je continue de le faire. Je continue à triper à le faire. Puis c'est sûr, je te cacherai pas que d'avoir le privilège de le faire avec les Remparts, c'est extraordinaire parce que tout ce qu'il y a alentour, on parle du centre Vidéotron, puis on parle des installations
oui.
qu'on a
oui.
pour une équipe junior. Tu retrouves même pas ça, pas seulement dans la Ligue junior majeure du Québec, mais partout ailleurs au Canada.
Puis Marc, pour faire un parallèle avec ton exemple de tantôt en Allemagne, il y a des murs tout le tour au centre Vidéotron, là.
oui, c'est des bons murs, puis c'est un jeu qui sont bien isolés ici, parce que là-bas, il y a des journées qu'on n'avait pas chaud. Alors, c'est ça. C'est le privilège que j'ai de pouvoir faire ça tous les jours, de gagner ma vie avec le hockey. C'est extraordinaire.
Parfait. Bien, bonne fin de saison avec les Remparts. 3 matchs cette semaine, Val-d'Or, Chicoutimi et Rouyn. Après ça, il va rester quelques matchs et ce sera les séries à la fin du mois de mars. Bonne fin de saison à toi, Marc. Merci de nous avoir parlé concernant cette victoire surprenante aujourd'hui des Allemands contre les Suédois aux Jeux Olympiques.
Ça fait toujours plaisir, Dan.
À bientôt.
Salut.
Bye-bye. Marc Fortier, entraîneur adjoint chez les Remparts de Québec. Ce soir, les visiteurs, les Foreurs de Val-d'Or.